Cette semaine à la vie en BD, bande dessinée et musique, du métal au breakdance. Bon mardi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro. Un plaisir de vous retrouver cette semaine et d'entrée de jeu, ben, on va transmettre nos félicitations à Zviane qui, pour son album Football Fantasy, a remporté le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise. Donc, le vote s'est complété dans le courant de la semaine dernière et c'est l'album qui a été choisi par les quelques 95 adhérents et adhérentes de cette association. Alors, ben, félicitations à Zviane. On a dit beaucoup de bien de Football Fantasy. On en redira sûrement encore du bien au fil des semaines et mois à venir. Le prix en tant que tel, lui, sera remis le 3 décembre prochain dans le cadre des rendez-vous de la BD de Gatineau. Donc, belle récompense. L'an dernier, ça avait été remporté par Jean-Paul Hyde pour son petit astronaute. Et sinon, cette semaine, ici à La Vie en BD, on plonge vers la musique et la bande dessinée. Donc, deux styles, deux genres très, très différents d'un point de vue sonore, mais on le verra également d'un point de vue visuel. En deuxième moitié, ce sera le métal qui sera à l'honneur avec un collectif qui nous est arrivé du côté des éditions Sawin, l'histoire de cinq grands groupes métal au Québec. Alors, la BD vulgarise l'histoire du métal québécois. Alors, de quelle façon, comment s'est fait la sélection? On a six groupes qui ont été choisis, six dessinateurs, dessinatrices au style très différent. Il faut dire que c'est des styles musicaux également à l'intérieur des groupes qui sont présentés, qui sont eux aussi très différents. Alors, discussion de groupe avec quelques-uns des dessinateurs, le scénariste, l'éditeur. Alors, en deuxième moitié d'émission. Et sinon, pour la première moitié d'émission, eh bien, on ira plutôt vers le breakdance et le hip-hop avec la série donc Au-delà des étoiles. Alors, une série scénarisée par Cici Mia qui est éditée du côté de la France, qui nous amène dans les banlieues de France d'ailleurs. Mais c'est dessiné au Québec par les deux pareils, donc les sœurs Lydia et Julie Fontaine-Ferron, qui ont exploré, se sont appropriés cet univers-là et surtout toute la fluidité qui est nécessaire pour le représenter. Alors, on va passer la première moitié de l'émission de cette semaine en leur compagnie. Alors, un gros menu cette semaine, ici, à La Vie en BD. Dans le cadre de La Vie en BD, on fait un peu de rattrapage puisque il y a deux jumelles de la région de Québec qui ont été très actives au fil de la dernière décennie et je pense que j'ai juste pris l'opportunité de les recevoir à leur premier projet que vous pourrez d'ailleurs trouver sur lavieenbd.com. Et là, ça faisait trois tomes, entre autres, d'une série sur le hip-hop que je les découvrais et qu'on les découvrait aussi dans la famille avec plaisir. Je me rappelle en fait les cris de joie de mon plus vieux à voir justement un des albums arriver. Alors, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité et prendre le temps de rattraper ce retard, notamment avec un triptyque qui vient de se fermer et d'autres beaux projets à l'horizon. Alors, les dessinatrices, c'est les deux pareils, Lydia et Julie Fontaine-Ferron. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et la BD dont il sera question dans cette rencontre, ben, c'est le triptyque Au-delà des étoiles, donc trois tomes chez Dupuis avec Cici Mia au scénario. Mais peut-être qu'on fera des clins d'œil à quelques séries également que vous développez, notamment en collaboration avec Liliane chez différents éditeurs. Mais remontons peut-être en fait, puisqu'on est en train de boucler la boucle. Enfin, on a bouclé la boucle un peu plus tôt cette année sur Au-delà des étoiles. C'était une première collaboration de votre côté, je pense, avec Dupuis. Et c'est l'éditeur, dans le fond, qui vous avait approché pour vous voir votre intérêt à proposer, à participer à ce projet-là, dans le fond.
Ben, dans le fond, un matin, on s'est réveillé puis on a eu un message de notre éditrice, Laurence, dans le fond. Puis c'était chez Dupuis, puis elle nous demandait est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur ce projet-là. Puis donc, on a lu le scénario, on a fait ouais, c'est intéressant.
C'est intéressant. Donc,
puis on a dit c'est Dupuis, donc on a dit.
On peut pas dire non à Dupuis.
Parce qu'on était un peu rendu là aussi dans notre carrière, on avait envie d'aller voir des.
Ouais, ça faisait longtemps qu'on. C'est un peu notre rêve, dans le fond, de travailler pour une maison d'édition européenne. Donc, quand on a vu, je vous dis, c'est pas tous les jours non plus qu'on a un email de Dupuis comme ça. Donc, On a dit, ah oui, on va essayer. On a décidé de faire le pitch de deux pages couleurs qu'ils nous avaient demandé. Puis, en fait, ça a fonctionné. Le comité a accepté le projet parce que, dans le fond, ce n'était pas la première fois non plus qu'ils présentaient ce projet-là. Ils l'ont déjà présenté avec des dessinateurs différents avant. Donc, ça n'avait pas fonctionné, mais Laurence voulait vraiment publier ce projet-là. Elle tenait vraiment beaucoup. Donc, elle nous a approchés parce qu'elle aimait notre style visuel. Donc, c'est ça, nous, on a fait un essai et ça a fonctionné. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur Au-delà des étoiles.
Il y a eu un bon instinct, dans le fond, de l'éditeur, de votre éditrice aussi, de se dire, OK, le style des deux pareils, ça fit avec l'énergie, dans le fond, de ce scénario-là. Et dans un contexte où, pour vous, j'ai l'impression qu'en termes de thématique, c'était un peu sortir de votre zone de confort. C'est une BD sur la danse hip-hop. Vous faites pas de danse hip-hop, de ce que je cherche. C'est une BD adolescente. Donc, c'est un peu hors de votre groupe d'âge. Et c'est une BD qui se passe dans les banlieues, dans les cités en France, ce qui n'étaient pas des lieux que vous aviez visités au départ non plus. Donc, c'était vraiment beaucoup d'apprentissage d'une shot aussi, j'imagine, à faire. Là.
On est vraiment sortis de notre zone de confort avec cette histoire-là. Mais comme on aime souvent dire, dans le fond, c'est bon aussi pour notre évolution personnelle de sortir complètement de notre zone de confort. Puis...
Comme on dit, au début, c'est vrai qu'on avait une tendance à faire les architectures plus américaines parce qu'on est américain. Donc, mais si elle nous a guidés, puis heureusement, il y avait Google Maps aussi. C'était un quartier qui existait réellement, le quartier des Étoiles, que elle, c'est un quartier où elle a habité. Donc, elle voulait quand même qu'on retrouve ce quartier-là.
On le reconnaît.
Ou qu'on le reconnaisse dans les planches. Donc, on avait quand même une bonne référence. Cici, elle nous a quand même bien guidés aussi dans
même
ce projet.
Elle ne nous demandait pas non plus que ça soit photoréalistique, d'exactement non plus.
Ouais, elle nous a laissé une certaine liberté aussi, heureusement, dans le visuel.
Ça reste quand même un peu imaginaire, le quartier.
C'est pas un vrai quartier, mais elle voulait quand même qu'on reconnaisse un peu son quartier. Ouais.
Et pour ce faire, dans le fond, j'imagine que ce que tu l'as dit, dans le fond, avec Google Maps, avec des photos et le reste, dans le fond, on a du matériel de base, à peu près ça. Est-ce qu'on se fait comme une liste de lieux puis qu'on essaie de voir, de sketcher pour, OK, l'école, OK, tel bloc, tel appartement, telle rue, puis d'avoir comme une espèce d'environnement bâti ou c'est vraiment au cas par cas quand vous rencontrez au scénario le lieu, OK, là, on prend une pause, on explore, à peu près ça, on...
Mais en fait, au début, c'est vraiment plus le quartier, mais après, nous, on a vraiment utilisé Google Maps, on s'est promené un peu dans le Carcassonne.
Comme l'école qu'on a dessinée, c'est vraiment une école qui existe là-bas. Et puis, c'est l'école où que les enfants de notre scénariste ont été aussi. Donc,
c'était un beau petit clin d'œil à la scénariste. Donc, mais sinon, des fois, on voit certains lieux que nous, on a juste pris Google Maps, on s'est promené un peu. On a dit, ah, j'aime ce coin-là. Donc, on a pris ce coin-là qui était proche du quartier des Étoiles. Donc, mais Google Maps a été un très bon ami dans ce projet-là.
Oui, puis tu sais, en fait, c'est que c'est souvent, on pense au travail de recherche, toujours dans une perspective des BD historiques, des BD d'époque. Mais finalement, il y a aussi dans une BD contemporaine, parce que pour l'ado qui va prendre la BD, lui, il faut qu'il se reconnaisse là-dedans aussi. C'est-à-dire que oui, les lieux, mais aussi les personnages et surtout leurs vêtements, par exemple. C'est comment ils s'habillent en France, les adolescents. Il faut le trouver, il faut chercher un peu, surtout qu'on est dans une branche de la sous-culture hip-hop qui a aussi ses critères, ses codes, ses attributs. Donc, j'imagine qu'il y a un certain travail de recherche même sur la mode en tant que telle.
Oui, beaucoup quand même pour la mode, mais comme on se parlait un peu tout à l'heure... Je pense qu'on va quand même vers des styles qu'on aime, nous, mais on essaie quand même de rester dans la mode adolescente.
C'est sûr que nous, on aime ça, faire des recherches aussi sur les vêtements. Donc, c'était quand même plaisant de faire ça, d'essayer de leur trouver des différents styles vestimentaires aux personnages aussi. Comme ils viennent de classes sociales différentes, on essayait aussi qu'ils ne soient pas habillés de toute la même façon.
Chacun leur style vestimentaire.
Oui, exactement.
Et puis chacun le regardera parce qu'ils ne sont pas tous les jours non plus habillés de la même façon.
Non, il n'y a pas qu'il y ait toujours les mêmes vêtements. Des fois, on les retrouve, les mêmes vêtements, mais on voulait quand même, comme tu dis, leur créer une petite garde-robe pour que ça soit moins monotone un peu pour les vêtements.
Donc, on sait que pour les ados, c'est important aussi la mode, donc d'avoir une garde-robe différente. Donc, je pense que c'était important pour une BD qui était
pour les adolescents.
Pour les adolescents de retrouver ça.
Ouais.
Est-ce que ça se passe pas mal au niveau du casting, par exemple, quand vous déterminez un peu à quoi va ressembler le personnage, vous montez sa garde-robe, vous montez un peu tout son univers. Puis c'est vraiment à ce moment-là que ces choix-là se cristallisent peut-être un peu plus sans se figer. Là, mais...
moi, je trouve que c'est des trucs que j'aime. On aimerait prendre le temps de faire, mais des fois, la production est tellement rapide que on n'a pas nécessairement le temps de créer
une garde robe au niveau au fur et à mesure. Ouais. Des fois, on fait des recherches au travers. La progression de la bande dessinée aussi. T'sais, on n'avait pas. Quand on a commencé, on n'avait pas déjà une garde-robe de créer pour les personnages. On a juste, à travers la bande dessinée, on a juste créé des vêtements différents, fait des recherches un peu pour des vêtements. Donc, même si, comme Julie dit, on aimerait avoir le temps, des fois, de développer ça plus en profondeur, mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Hein.
Oui, ça devient du temps que tu prends, par exemple, dans le premier, où tu sais nécessairement que le premier tome, ça va être un peu plus long à faire, parce qu'il y a plus de travail à faire à travers la production du tome, comparativement au tome 2 ou au tome 3, où là, ça avance plus vite parce que le gros, dans le fond, de la recherche a été fait en création du tome 1, dans le fond.
Puis en plus, si je peux ajouter à ça, c'est que le premier tome, il était encore plus long parce qu'on était obligé de refaire les deux premières pages, parce qu'il n'était pas au niveau du reste de l'album. C'était comme les deux premières pages. Et ensuite, l'éditeur en chef trouvait que le scénario manquait quelque chose, donc il y a eu 4 nouvelles pages ajoutées au premier album. Donc, ça a été comme plus compliqué un peu comme production.
C'est pour cette raison-là que le premier album est un peu plus long aussi que les deux autres. C'est
Il y avait plus de pages. Je ne me rappelle pas exactement combien il y a de pages dans le premier album, mais c'est une des raisons pourquoi l'album est un peu plus long que les autres. Donc, voilà.
Le temps de trouver le rythme, le beat, puis de voir un peu les petits agros. Profiter du regard extérieur, j'imagine, ça devient au bénéfice de l'album. Mais ça fait effectivement. Ça change un peu, ça doit changer un peu le planning quand tu es serré sur les autres tomes. Là, c'est...
Ouais, mais c'est sûr, en plus, qu'il y a eu le COVID aussi pendant la production. Ouais. Donc, ça aussi, ça a ralenti un peu la sortie du premier album, mais ça nous a permis en même temps de pouvoir refaire les deux premières pages et d'ajouter les 4 nouvelles pages qu'on n'avait pas au début. Là, donc,
Oui, puis ça devient spécial aussi, je fais une parenthèse COVID, mais c'est dans le fond de lancer une nouvelle série en pleine COVID, finalement, il faut pratiquement attendre que le premier triptyque soit fini pour aller à la rencontre du public. Ça doit être un peu plate là-dessus.
On commence présentement à rencontrer un peu plus le public, puis on a déjà terminé le troisième album. Donc,
c'est drôle parce qu'on a encore des commentaires plus sur le premier album que sur les autres albums qui sont sortis, même si. C'est le premier album, ça fait déjà 2020 qui est sorti. Ouais. Donc, mais oui, ça a été particulier. Puis en plus, avec le COVID, nous, on n'était pas en Europe, on n'est pas des autres. On n'est pas connus du tout, ni ici. C'est son premier album professionnel. Maintenant, elle me fait beaucoup plus. Ça commence à être plus connu un peu, mais ça a été particulier à cause de ça. Puis le COVID n'a pas aidé du tout. Donc, ça n'a pas été facile pour le premier.
Ça permet de se concentrer. Le côté de travail d'atelier, l'horaire est plus facile, mais pour tout le reste...
Il n'y avait pas de distraction.
Et dans le fond, on ouvre un peu la porte là, sur la méthode de travail. Dans le fond, vous êtes deux. Avant, dans le fond, parce qu'il me semble que c'est cet album-là et quelques autres, dans le fond, ont vraiment amorcé votre collaboration en duo. Mais vous avez travaillé aussi en solo avant de vous lancer ensemble de façon plus concrète, si on peut dire. Comment ça s'est... Peut-être, qu'est-ce qui a amené à se dire, dans le fond, finalement, on aimerait mieux travailler ensemble sur des projets communs plutôt que de faire nos projets chacun de notre bord?
En fait, comme on dit souvent, on a toujours travaillé ensemble, même sur nos albums solo, on travaillait ensemble, mais dans l'ombre. On était dans l'ombre. Pour nous, c'est...
Ça a été naturel, de créer ce duo-là. On a toujours travaillé ensemble, c'est juste que on l'a officialisé avec Au-delà des étoiles. On a dit pourquoi qu'on ne travaillerait pas vraiment avec en duo pour celui-là.
Avec un pseudonyme.
Qu'on a créé, justement. On n'avait même pas de pseudonyme quand on a commencé Au-delà des étoiles. On ne savait pas. Au début, on avait pensé aux twins, mais comme il y avait déjà un duo de danseurs, on a fait non, c'est eux qui vont tomber dans les recherches Google. Donc, il y avait déjà des personnes qui avaient appelé les deux pareils, donc on a choisi les deux pareils.
Même si au début, ça ne plaisait pas nécessairement à
l'éditeur.
Ils trouvaient pas à notre éditrice, mais à l'ensemble des éditeurs. Il y a un comité, donc ils trouvaient que c'était trop québécois
comme surnom.
Mais on est québécois, donc...
ça a été naturel quand même de commencer ce duo-là. On a toujours travaillé ensemble, donc ça a juste... On a juste officialisé les choses.
Puis est-ce que ça veut dire au niveau stylistique, parce que reste que quand on s'investit plus de façon spécifique sur un album, on développe un peu, fait qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, quelqu'un qui avait un style un peu plus carré, qui l'arrondit, ou d'essayer de trouver une façon de s'assurer, dans le fond, que les styles s'imbriquent bien l'un dans l'autre, mais puis se développe, c'est de passer d'un développement parallèle à vraiment un développement commun, finalement.
Ben, je dirais que, comme par exemple, au-delà des étoiles, c'était Julie qui avait commencé le style visuel. Donc, c'est moi qui ai eu à s'adapter à son style. Puis effectivement, comme tu dis, moi, j'avais un style plus carré quand je travaillais sur les supports, justement, que j'ai fait avec Linia chez Michel Quinton. Mais c'est vrai que mon style est devenu beaucoup plus rond parce que Julie, elle avait déjà un style plus rond. Mais je me suis adaptée et puis mon style a évolué aussi à travers son style à elle, ce qui est quand même bien.
Ouais. On a aussi développé une technique qui nous permet aussi de
rester constant dans notre dessin.
On travaille toutes les deux sur la même planche, donc comme chaque étape, dans le fond, l'autre passe sur la prochaine étape, donc ça permet de garder une uniformité dans le style. On a dit en faisant ça, justement, on va se...
Parce que, par exemple, si je fais un storyboard, Julie va faire le crayonné. Ensuite, moi, je vais terminer avec la couleur sur son crayonné. Donc, si elle pouvait corriger des petites choses qu'elle aimait moins, que j'avais fait, ou des petits trucs comme ça. Donc, comme elle dit, ça permettait de garder une uniformité au dessin.
Est-ce qu'on garde les rôles quand même sur l'ensemble de l'album? Exemple, si on dit, mettons, OK, c'est Julie qui est sur le crayonné. C'est après ça tel autre qui est sur le croquis au départ ou le storyboard. Est-ce que c'est des responsabilités fixes ou au contraire, à chaque page, on change un peu justement pour s'assurer que ça soit le plus cohésif possible? Ou...
Ben, c'est vraiment non. C'est vraiment, on travaille vraiment sur toutes les pages, les deux. Donc,
toutes les deux, on fait du storyboard, on fait du crayonné, on fait de la couleur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les tâches et on sépare le storyboard à deux. Et comme on dit, moi, je vais faire le storyboard, Julie va faire le crayonné sur mon storyboard, puis moi, je vais terminer avec la couleur sur son crayonné pour être sûr comme, de garder une constance dans le dessin.
OK. Oui, puis ça permet après ça, ben, j'imagine, de voir, en fait, si tu vois qu'est-ce que ta sœur a fait avec ton storyboard, ah, OK, finalement, pourquoi t'as changé ça, telle affaire, puis là, j'imagine que ça doit être des échanges aussi parfois assez stimulants.
Vraiment, là, je trouve que ça permet vraiment de diversifier aussi les plans. On n'a pas la même façon, des fois, de découper, donc je trouve que ça permet de... Ça enlève un peu la monotonie, des fois, qu'il peut peut-être avoir.
Ou sinon, tu as ton feedback immédiatement. Je veux dire, c'est comme vous êtes vraiment le premier feedback de l'autre à toutes les étapes de la production. Là.
Puis je pense que des fois, ça crée même des planches plus fortes au niveau du dessin. Tu sais, des fois, parce que je dis, va corriger un peu ce que moi j'ai fait. Donc, moi, j'aime ça, cette façon de travailler.
Ouais. C'est plus rapide.
Ouais, c'est plus rapide aussi de travailler à deux comme ça. Donc, ouais.
J'imagine qu'il y a des discussions préalables aussi pour dire, bon, OK, on va s'orienter avec tel type de plan, avec tel type de cadre, on fait tel choix au niveau visuel. Donc, il y a quand même des règles de placer d'entrée de jeu, dans le fond.
Oui, c'est ça. On voit toujours un peu ce que l'autre fait aussi. Donc, on peut toujours en discuter. Oui,
Et dans le contexte, j'imagine aussi, parce que, bon, au-delà des étoiles, c'est une série sur la danse, c'est une série sur le mouvement, et pour moi, puis je regardais, puis c'est super bien rendu d'ailleurs, parenthèse, dans la BD, il y a une fluidité là-dedans que vous réussissez à mettre de l'avant pour qu'on sente, dans le fond, le mouvement des personnages, puis clairement, je veux dire, si vous n'êtes pas capable de rendre ça, la série ne marche pas, parce qu'il y a des scènes de danse, il y en a, ils se pratiquent, ils répètent, ils font des shows, ils bougent, fait que est-ce que ça a nécessité peut-être un travail ou un défi particulier? Est-ce que ça représente un défi particulier de réussir justement à rendre cette fluidité-là ou à trouver cette fluidité-là?
Et moi, je voulais juste ajouter qu'on vient du domaine de l'animation, donc on n'est pas...
on a quand même une petite connaissance du mouvement.
Ça a toujours été important pour nous, ce dynamisme-là dans la bande dessinée. Donc, mais c'est sûr qu'avec... Avec cette BD-là sur la danse qui était carrément sur le mouvement, ça a vraiment amélioré le dynamisme, je pense,
de notre dessin. C'était vraiment intéressant, puis c'est vrai que c'était un défi. Puis même au début, je trouvais que on ne savait pas toujours vraiment comment découper des séquences de danse. Là. En bande dessinée, c'est pas toujours facile. Je pense qu'à travers les trois albums, on a quand même trouvé un peu plus la façon de découper pour que ça soit plus dynamique, puis plus facile pour nous aussi, mais au début, je trouvais c'est un peu difficile de trouver les bonnes références puis le bon découpage, mais vraiment à travers ce... Puis il faut dire aussi qu'il y a Sissi qui nous a guidés, parce qu'elle, elle connaissait plus le milieu de la danse que nous autres, on connaissait pas du tout. Donc, mais je pense quand même qu'à travers les trois albums, c'est juste de mieux en mieux les séquences de danse. Personnellement, je trouve là, que c'est... C'est mieux.
Est-ce qu'on regarde des vidéos, par exemple, on essaie de voir justement avec l'œil de l'animateur, de dire, OK, comment je ferais si je faisais une séquence? Puis après ça, de se dire, maintenant, dans le statique de la page, comment je peux, quel mouvement je peux enlever, dans le fond, ou quel mouvement je peux suggérer pour avoir cet effet-là? Est-ce que c'est un peu comme ça que ça a marché? Ou...
Oui, moi, c'est sûr que des fois, je regardais souvent des vidéos, puis je prends cette pause-là, puis peut-être les mettre une à suite de l'autre pour vraiment donner une impression de mouvement. C'est sûr qu'il y avait, on s'est beaucoup inspiré d'une BD, Emma et Capucine aussi, qui est sur la danse, qui est un peu sur le même sujet. Donc, tu sais, on avait déjà une bonne...
Ça a été une grosse inspiration aussi.
Une bonne idée de comment on peut peut-être représenter la danse en bande dessinée. Donc,
C'est sûr qu'on on a essayé d'aller chercher, comme Julie a dit, certaines bandes dessinées qui traitaient de la danse, même si le breakdance, il n'y en a pas tant que ça qui parle de ce sujet-là.
Ou le ballet.
Le ballet.
En fait, la danse, c'est la danse. Puis après ça, c'est, j'imagine, plus le type de geste. Le breakdance, c'est des mouvements X. Le ballet, c'est des mouvements Y. Mais ça reste du mouvement, dans le fond. Donc.
Je crois que ça a été beaucoup de recherche au niveau des mouvements de danse. Justement, Sissi, elle a nous donné des fois les noms des mouvements de breakdance pour qu'on puisse vraiment faire une recherche pressée sur le mouvement, parce qu'il y a des fois, on voulait des choses en particulier aussi, donc
oui, puis après ça, dans le fond, autant il faut rendre le mouvement comme tel, puis autant il faut rendre le mouvement en groupe, parce que dans le fond, tu as 7 personnes, 6 personnes qui bougent en même temps, et que des fois, tu vas les avoir sur ta pleine page, tout le monde ensemble, pour qu'on comprenne que, hey, ça groove. Autant d'autres fois, tu vas choisir de les découper un petit peu plus, un peu façon scène d'action, mais tu sais, c'est encore là, tu sais, ça fait du monde à mettre en mouvement en même temps aussi.
Un bon point, parce que c'est vrai que le fait qu'il était... Il était sept. Donc, c'est vrai que c'était difficile, des fois, de les mettre toutes ensemble dans une séquence,
Trouver des références de groupe. Souvent, le hip-hop, le breakdance, c'est souvent un peu solo.
Pourtant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de compétitions de crew, justement, qu'on en voit plusieurs. Mais c'est vrai que ça a été un défi, je trouve, de représenter qu'ils dansent tous ensemble. C'était vraiment difficile pour de trouver
les bons plans, trouver les façons d'ajuster ça, puis de varier, j'imagine, parce que tu ne peux pas non plus toujours les représenter de la même façon non plus, même s'il y en a une qui est bien bonne. Mais,
c'est ça. Mais oui, effectivement, c'est ça. Il faut toujours trouver des plans différents puis dynamiques. Donc, ça, c'est un gros défi, je pense.
Ouais. Des fois, on fait comme, j'imagine, ça s'est aidé par le fait que, comme tu as fait les trois, si tu me permets l'anglicisme, back-à-back, tour à tour, ben t'as en tête un peu ce que t'as fait dans les autres albums, fait que t'as pas trop à aller voir, OK, ça, j'ai-tu déjà fait cette mise en scène-là, parce que tu l'as en tête, donc tu peux juste rempiler sur tout ça.
Donc, c'est sûr qu'à travers les trois albums, je pense que ça devenait plus facile aussi, parce qu'on avait comme, je sais pas comment dire ça, mais on avait plus nos références, donc...
Puis dans le troisième tome, en fait, ça permet... En fait, j'ai bien aimé, il y a une petite séquence où justement on reprend tout ce que vous avez travaillé sur la danse, mais que vous l'amenez dans une perspective intimiste, ou du conte, ou sans dire trop, là, mais un personnage qui arrive chez un autre personnage, enfant en soirée, finalement, ils se mettent à pratiquer des mouvements, puis finalement, ça devient aussi un moment de séduction. Fait que c'est subitement, on retrouve les codes du groupe, les codes du gymnase, mais dans un cadre qui est radicalement intimiste, puis juste avec... plus de proximité entre les personnages, un peu plus de douceur dans le mouvement, des couleurs un peu différentes. C'est oups, on passe du coup sur coup d'une ambiance à une autre, mais avec les mêmes codes, finalement.
C'est vrai. J'avais jamais même pensé à ça, mais c'est vrai, effectivement, c'est un bon point à soulever. Mais c'était une belle séquence, cette séquence-là aussi.
Et en même temps, au fil de la série, et particulièrement dans les premiers tomes, parce qu'évidemment, on a plus à établir dans les premiers tomes, on se permet aussi de faire des allers-retours... un peu en lien avec les personnages aussi, ça, j'imagine que c'est la volonté de la scénariste aussi, Sissi Mia, d'aller avec un casting qui est très varié en termes de classe sociale, en termes d'origine ethnique et culturelle et le reste. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un personnage qui est un réfugié syrien, mais oups, ça nous permet de toucher un peu à cette réalité-là. On a un personnage qui vient de classe sociale plus élevée, mais OK, on peut parler de lutte des classes à travers lui. Et ça veut dire que dans les flashbacks, mais ça vous permet aussi, comme dessinatrice, dans le fond, de sortir de ce quartier-là, d'aller vers d'autres quartiers ou carrément même d'aller vers d'autres pays, parce que votre réfugié, il vient d'une zone de guerre, il a traversé, donc il y a toute une séquence, justement, où on fait son odyssée pratiquement avec lui.
C'est vrai.
c'était très intéressant de parler un petit peu plus de Synapse, de voir un petit peu plus son...
En fait, des fois, c'est ce qui est dommage aussi que la série, pour l'instant, ne suit pas, parce que ça aurait été intéressant de voir ce genre, de continuer à avoir un peu ce genre de flashback-là. C'est vrai que ça, c'est intéressant de se déplacer ailleurs, puis de voir la réalité de gens ailleurs. Donc,
c'est une réalité vraiment actuelle.
Je pense que c'était, c'était important pour aussi de parler de cette situation-là, justement. Donc,
Et puis de se donner l'opportunité, mais encore là, j'imagine que côté visuel, tu sais, ça casse, entre guillemets, la routine de votre côté, parce que là, subitement, vous êtes en train de montrer l'Italie, vous êtes en train de monter des montagnes, vous êtes en train de montrer la Syrie. Pendant deux planches, trois planches, oups, vous êtes complètement ailleurs, avec d'autres couleurs aussi, parce qu'il faut sentir le flashback. Donc, ça change un peu votre méthode.
Voyager un peu, je pense. Ouais. Surtout, je pense qu'on voit plus ça un peu dans le troisième album. Je me trompe pas. Ouais. Donc, mais oui, effectivement, c'était bien pour ça.
Et au niveau des choix de couleurs, parce qu'on a parlé un peu du mouvement, mais il y a aussi, en fait, de façon générale, puis si les auditeurs auditrices n'ont pas lu la série, mais qui vont la parcourir, vous allez voir. Je trouve qu'il y a une énergie extrêmement positive qui ressort de cette série-là. Oui, par le scénario, oui, par les personnages qui sont proposés, mais je trouve que votre choix de couleur n'est pas étranger non plus à ce beat extrêmement positif. Qui en ressort, ce n'est pas une BD que tu sors torturée, c'est pas, oui, c'est ado, mais c'est pas de l'ado qui se prenne à la tête et que c'est lourd, au contraire. Il y a une légèreté, puis il y a une lumière qui ressort un peu de cette série-là. Mais côté couleur, dans le fond, est-ce que justement, vous disiez au départ, l'éditeur est venu vers nous parce que, justement, notre style. Donc, dans le fond, vous n'avez pas eu trop d'adaptations à faire parce que vos choix naturels vous amenaient vers ce type de colorisation-là, où il y a quand même eu un travail pour trouver les couleurs d'Au-delà des étoiles.
En fait, ce que je peux te dire, c'est qu'au début, il voulait Arthur de Pointe pour travailler sur Au-delà des étoiles. Donc, lui a été quand même une inspiration au niveau des couleurs, mais nous, on avait un style beaucoup plus coloré que qu'est-ce qu'on peut voir sur Zombielinium, par exemple, qui sont plus ternes un peu comme couleurs. Donc, je crois que oui, ils sont venus vers nous un peu parce qu'on avait un style coloré. Puis, justement, comme tu dis, pour donner peut-être quelque chose de moins sérieux, plus positif, effectivement.
Moins dramatique.
Oui, donc c'est vrai que au début, on a travaillé quand même, on n'a pas trouvé immédiatement le style qu'on voulait au début. Ça a été un peu difficile, mais à partir du deuxième album, je pense qu'on avait vraiment trouvé le style visuel. On travaillait beaucoup avec la lumière, justement, plutôt que les ombrages. Donc, je crois que c'est pour ça que ça donne aussi un style plus lumineux. Hein. Donc,
voilà. Oui, puis de travailler à l'ordinateur, en fait, y a quand même... On sent une profondeur dans le dessin qui est peut-être justement rattachée un peu à ça, puis qui évite d'avoir un peu des fois quand c'est mal fait à l'ordinateur, mais il y a comme un côté bidimensionnel qui ressort, qui est plus carré. Dans ce cas-là, il y a quand même une profondeur à vos lumières, à vos dessins, à vos séquences qui est intéressante, je trouve.
Oui, merci.
C'est beaucoup de travail, d'expérimentation.
Comme on dit, on s'est inspiré aussi un peu du travail de la dessinatrice sur... Et Emma Capucine, qui elle aussi travaille beaucoup avec les lumières, donc ça a été aussi une inspiration pour Au-delà des étoiles. Donc, ouais.
Et de votre côté, mais dans le fond, vous l'avez dit, dans le fond, le triptyque initial donc, est terminé. On verra s'il y aura suite de ce côté-là ou pas, mais sinon, à tout le moins, dans le fond, si les gens hésitent à se lancer ou pas, on a une histoire complète. Il y a des portes qui sont ouvertes, mais il y a beaucoup de portes qui se ferment aussi, donc il y a quand même une histoire complète là, qu'on a sur trois tomes. De votre côté, ben dans le fond, là, vous allez passer de Dupuis à Glénat, puis vous restez un peu dans l'univers de jeunes héros avec une BD sur le soccer féminin, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est exactement ça. En fait, l'héroïne va avoir 12 ans, c'est ça? Ouais. Donc, on est un petit peu plus jeune, on va chercher un public un peu plus jeune. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Mais veux-tu expliquer un peu l'histoire?
Ben, est-ce qu'on peut expliquer un peu l'histoire?
Oui.
Okay. Donc, en fait... C'est ça, Alex, qui est notre héroïne qu'on suit, c'est comment je pourrais dire ça, une championne du soccer junior. Donc, son but dans la vie, c'est de gagner le championnat de junior de soccer, on va dire soccer, au Québec.
Football pour les Français qui nous écoutent.
C'est mal désolé. Donc, en fait, elle va avoir un accident qui va changer son destin jusqu'à bien. Est-ce qu'on peut dire? En fait, elle perd une jambe. Donc, il faut qu'elle apprenne à vivre avec son handicap, mais malgré tout, elle décide de poursuivre son rêve
d'atteindre les championnats.
Ouais, d'atteindre les championnats juniors mondiaux. Donc, voilà, ça va être ça en gros.
Vous allez passer de la mise en mouvement de la danse à la mise en mouvement du sport, du football, soccer.
On reste un peu quand même dans le mouvement, dans quand même. Ouais. Je pense qu'on aime quand même bien représenter aussi. On a vraiment beaucoup de plaisir à dessiner des belles scènes d'action.
Oui, puis vous allez retrouver les liens aussi sur cette collaboration-là. Donc, il y a déjà une habitude de travail qui est, j'imagine, bien installée avec lui.
Exactement, on travaille quand même bien ensemble. Donc, c'est super de travailler avec les liens. Non plus, il n'est pas compliqué. Super sympathique. Tu l'as déjà eu en interview. Tu as déjà discuté avec lui. Donc, mais oui, c'est avec un plaisir qu'on retrouve les liens à travailler avec les liens au scénario. Hein. Peut-être avec d'autres projets avec lui aussi éventuellement. Donc, voilà.
Alors, comme on dit, ça s'est bien démarré et au-delà des étoiles, aura eu le bénéfice de vous donner une belle carte de visite aussi outre-mer avec un éditeur majeur européen. Donc, on imagine que ça doit ouvrir des portes aussi de ce côté-là.
En fait, c'est sûr que nous autres, on voulait continuer à être publié en Europe. Là, une fois qu'on est là-bas,
Puis ça a super bien été aussi avec Dupuis, on s'entend. Ça a été une belle collaboration. C'est des professionnels. On voit qu'ils connaissent beaucoup le milieu de la bande dessinée. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Donc, là, on est avec Glénat. J'espère que ça va bien se passer aussi parce que c'est pas tout à fait de commencer encore. Donc, voilà.
Alors, à suivre, mais d'ici là, bien évidemment, je le rappelle, on a Au-delà des étoiles, donc 3 tomes à se mettre sous les dents, donc publié au fil de la pandémie, finalement. Donc, c'est chez Dupuis avec Cécilia au scénario. Et ben, Lydia, Julie, Fontaine-Ferrand, donc les deux pareils. Merci à vous deux.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, on plonge maintenant vers un album, un collectif en fait. C'est le troisième des collectifs qui nous sont offerts du côté des éditions Sawin, où après s'être intéressé au mystère extraterrestre au Québec, après s'être intéressé aux lieux hantés du Québec, maintenant on passe du côté biographique et on nous amène dans un univers musical qu'on pourrait présenter comme étant méconnu. On va détailler tout ça tout à l'heure, mais c'est l'univers métal au Québec. Donc, le collectif s'appelle « L'histoire des 5 grands groupes métal du Québec ». Et eh bien, on a 5 des artisans de ce collectif qui sont avec nous. Alors, l'éditeur Nick Michaud, bonjour.
Bonjour, Raymond.
Félix B. Défossé, scénariste, bonjour.
Hey, allô.
Steph Dumais, dessinateur qui a fait l'histoire de Gorgoth, bonjour.
Bonjour.
François Simard, qui lui a fait le dessin pour Anonymous.
Yes, bonsoir.
Et Cyrus, qui s'est intéressé à autre chose. Bonjour.
Salut.
Alors, ben, je le disais, en fait, donc, les lieux hantés, les phénomènes extraterrestres, Nick, maintenant, les groupes métal, on fait le tour de tes champs d'intérêt ou on plonge vraiment dans un grand champ d'intérêt pour toi avec ce sujet-là?
Un grand champ d'intérêt, oui, et un sujet qui est quand même mystérieux pour plusieurs parce que c'est un style de musique, comme tu disais au début, qui est peu connu. Donc, je voulais mettre ça de l'avant. C'est quand même boudé par la radio, c'est quand même boudé par la disque encore. Je le mentionne à chaque fois parce que c'est quand même très honteux qu'ils ne mettent pas ce style de musique-là qui existe depuis près de 50 ans. Donc, oui, c'est ça. Je voulais parler de ce style de musique-là et la musique de chez nous qui se fait le heavy metal québécois.
Et contrairement aux deux autres collectifs où tu étais également le scénariste attitré, là, cette fois-ci, tu as décidé de prendre un pas de distance, de plus t'investir peut-être, j'ai l'impression, dans ton rôle d'éditeur et de laisser le scénario à quelqu'un d'autre, donc en ce cas-ci, à Félix B. Défossé.
Oui, c'est ça. C'était aussi pour me séparer Nick Michaud des éditions Sawin. Je ne voulais pas juste que ce soit juste moi qui soit sur la couverture. Donc là, c'est tout à fait délibéré. Je ne voulais pas être dessus. Je voulais être que l'éditeur seulement et laisser faire l'équipe pour leur créativité.
Et évidemment, Félix B. Desfossé, c'est un nom peut-être que certains connaissent, chroniqueur, journaliste, tu as livré, tu t'intéressais à l'histoire du hip-hop et à l'histoire du métal, entre autres éléments dans des ouvrages, dans des essais, dans des interventions. Premier scénario BD pour toi?
Oui, bien en fait, non. Mon premier était à peu près à l'âge de 10 ans. Là. Puis, non, mais je le dis parce que, tu sais, c'est un rêve, littéralement, là, de faire de la BD. Tu sais, à 10 ans, tu sais, j'étais dans le journalisme toute ma vie, mais déjà à 10 ans, en quatrième année, j'avais parti à un journal de classe avec un de mes amis pour pouvoir faire mes BD et les éditer dedans. Fait que, tu sais, on s'entend que, tu sais, c'est un peu à la blague que je le dis, mais en même temps, ça nous démontre que, tu sais, très tôt dans ma vie, j'avais vraiment un intérêt pour ça. Fait que là, après ça, de me lancer vraiment dans quelque chose de sérieux comme ça, dans un travail qui est aussi documentaire, là, ça venait vraiment rassembler toutes sortes d'intérêts et remplir finalement une espèce de rêve d'enfance.
Oui, puis tu te retrouves dans une dynamique particulière où toi, tu as tes premières armes comme scénariste, mais dans un sujet que tu maîtrises de bout en bout, avec des dessinateurs qui en sont parfois à leur début aussi, et autant que d'autres qui sont franchement très expérimentés ou plus expérimentés. Donc, j'imagine que ça devient une belle opportunité de faire de l'essai rare. Je veux dire, tu as 5-6 personnes avec 5-6 méthodes, 5-6 modes de travail. Je veux dire, comment c'est organisé un peu à travers tout ça?
Ah, ben c'est vraiment Nick hein, qui a été le chef d'orchestre de tout ça. Fait que je lui laisse vraiment le plaisir de pouvoir y répondre parce que ça a dû être une pas pire job de coordination, effectivement.
Mais c'est une belle équipe. Fait que c'est vraiment... Tout a bien coulé. Les personnes, c'est sûr qu'il y avait des nouveaux BDistes dans l'équipe qui n'avaient jamais fait de BD, mais c'était tellement des bons dessinateurs, des bons artistes, ils étaient bien motivés. Fait que pour ça, tout a bien été. Je n'ai pas à me plaindre pour ce projet-là avec mon équipe.
Donc, on est parti en fait à partir, c'est quoi, Félix, t'as développé un peu? Si on reste un peu le scénario avant de sauter sur les dessinateurs, donc t'as bâti un peu une trame, des biographies pour chaque groupe? Comment
c'est ça. En fait, vraiment, on est retourné à des entrevues avec chacun des groupes parce que, premièrement, il y en a dont j'avais déjà parlé dans le livre « L'évolution du métal québécois », mais j'avais pas nécessairement été... j'avais pas nécessairement couvert l'entièreté de leur carrière dans le livre, parce que moi, le livre a arrêté en 1989. Et dans d'autres cas, je m'étais arrêté à des informations qui étaient plus factuelles, parce que l'évolution du métal québécois demeure plus encyclopédique comme manière d'écrire. Là. Alors que là, on était vraiment on est passé à la pêche aux anecdotes savoureuses et crunchy. Là, t'sais. Fait qu'on est allé chercher le plus possible de trucs qui étaient pour se pouvoir se mettre en image très, très bien. Parce que, tu sais, de mettre en image, en dessin, un jam d'un groupe qui est en train de pratiquer. Je veux dire, on sait là, qu'un groupe est dans son local en train de composer. Puis, à quelque part, chacune des BD aurait été à peu près identique si on s'était arrêté juste aux informations de base. Mais chaque groupe, par exemple, a vécu des choses en tournée, a vécu des choses en studio, a vécu des choses ici et là dans sa carrière qui peuvent se mettre très, très bien en dessin. Puis, ce qu'on a cherché encore plus particulièrement dans les anecdotes, et moi, c'est vraiment un processus que j'ai toujours dans ma manière de mettre en récit les informations que je vais chercher en général, c'est de trouver l'anecdote qui va nous... ou l'histoire avec un H minuscule qui va nous en dire beaucoup à propos de l'histoire avec un H majuscule. Donc, une anecdote qui soit vraiment le plus porteuse possible. T'sais. Fait que ça a été ça le processus, finalement. Dans les entrevues, c'est ça qu'on est allé chercher avec les artistes.
Donc, on cible les bonnes anecdotes, les bons éléments qui nous permettent de saisir un peu la nature, l'essence du groupe, puis qui vont donner du jus aussi aux dessinateurs pour leur permettre d'avoir une variété dans représentation aussi, exact. Des différents lieux, différents contextes, ou des séquences, des histoires suivies, parce que ça reste des histoires qui sont très courtes. Donc, d'avoir quelque chose sur une planche qui se tient avec un début, milieu, une fin, OK, c'est un beau défi de mise en scène, c'est une belle opportunité de mise en scène que tu offres à tes dessinateurs, dans le fond.
Ben oui, moi, c'est exactement ça que je voulais. Je me disais, tu sais, une fois qu'on a identifié les anecdotes qui sont effectivement porteuses, bien là, après ça, on peut choisir lesquelles, justement, vont se mettre le plus en image. Tu sais. Puis là, ben, Nick et moi, on a commencé à travailler un peu sur certains, des canevas de base un petit peu pour voir comment on était pour enligner ça, chacune des cases, etc. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, moi, j'ai commencé à imaginer nécessairement des choses dans ma tête, des images et comment les choses pouvaient se présenter. Puis j'ai tellement pogné de quoi quand j'ai reçu le résultat ou les premières images à faire comme, OK, là, ce que j'avais dans ma tête, là, j'ai un François ou un Steph ou un Cyrus qui a comme fait, est arrivé quasiment à aller chercher ces images-là dans ma tête puis les mettre en dessin. Je veux dire, j'hallucinais bien raide, là, tu sais, c'est vraiment merveilleux de voir ça prendre vie comme ça.
Et évidemment, on parle de 5, en fait, dans la réalité, 6, puisqu'il y a un prologue également, donc 6 ouais. groupes métal. L'impression que j'en ai, c'est que d'un côté, délibéré, dans le fond, on a été chercher des groupes métal de différents styles, de différentes mouvances métal, de différentes époques aussi. Évidemment, il y a des incontournables, mais en fait, au bout du compte, c'est tous des incontournables dans leur genre également. Puis en parallèle, d'aller chercher volontairement aussi, je trouve, 6 dessinateurs avec des styles qui sont assez disparates, assez variés. Donc, je trouve qu'on varie le style musical autant qu'on varie le style visuel. Peut-être dernière question côté mise en place, le choix des groupes, est-ce que c'est Félix Bédéfossé et Nick Michaud qui ont dit « c'est ces 5-là qu'on veut faire » ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des dessinateurs qui disent « hey, moi, Forteresse, hey, moi, autre chose, ça me tenterait d'en parler » ou comment ça s'est passé un peu la sélection hein?
Ben, vas-y donc, Nick, parce que toi, tu m'es arrivé avec des propositions quand même, là.
Oui, c'est ça. On a chacun lancé des groupes qui devaient être là-dedans. Pour Forteresse, c'est Christian Quenel qui avait déjà en tête de faire un projet sur ce groupe-là. C'est son groupe préféré à vie. Fait que quand je lui ai parlé de l'album Metal, je lui ai dit, on pourrait l'inclure, ça t'intéresserait, Christian? Puis il dit, oui, certainement. Puis c'est sûr que Forteresse, c'est un des plus grands groupes de black metal au Québec. Puis, on avait déjà notre groupe de black metal. Donc, on a joué dans le death metal. Il y a beaucoup de death metal au Québec qui sont des légendes. Fait qu'on ne voulait pas juste mettre 5 bandes de death metal. Fait qu'avec Félix, on a choisi les styles. Et c'est sûr qu'il y a eu des choix déchirants à faire. Mais pour un premier album, tome 1, en écrivant tome 1, on sait que les gens vont avoir d'autres groupes sur les prochains tomes. Donc, on sauve plusieurs commentaires de pourquoi ce groupe-là n'est pas là. c'était la meilleure façon, je pense, pour satisfaire les métalleux.
Puis moi, l'art maniaque de racines et d'histoire, ben, j'ai insisté quand même pour qu'on puisse ajouter autre chose là-dedans, ne serait-ce justement quand, tu sais, un peu en introduction, parce que je trouvais ça dans l'évolution du métal québécois dans le livre, ben, tu sais, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur le groupe Autre chose de Lucien Francœur. Puis je trouvais que ce serait de rendre un bel hommage aussi à Francœur puis à ce groupe-là de pouvoir l'intégrer dans ce processus-là. Et le style de Cyrus fit tellement bien avec. Tu sais, c'est ça que je trouve particulier, justement. Puis ça nous permet peut-être de commencer à aller vers, justement, à discuter des différents styles. Mais tu sais, je trouve qu'on dirait que chaque illustrateur, illustratrice ont eu un style qui a fité vraiment bien avec le style musical aussi, tu sais, parce qu'il y en a justement, tu sais, on va dire autre chose, Lucien Francœur est tellement un personnage que je veux dire, c'est comme ça fit au bout avec l'univers de Cyrus, mais là, après ça, dans l'univers, par exemple, de Gorgoth, on est quelque chose qui est un peu plus très dans le détail, quelque chose de plus cérébral, ben, Steph arrive avec quelque chose, tu sais, qui est comme vraiment très, comment dire, on est moins cartoon, puis on est plus proche d'un dessin... plus, je ne sais pas comment le dire, comment le décrire exactement. C'est pas, je ne suis vraiment pas le meilleur là-dedans. Mais après ça, je pense à The Spice d'Icon aussi, où là, eux autres aussi, c'est quelque chose de très, très léché. Mais les dessins sont plus léchés aussi, tu sais. Fait que c'est comme, je trouve qu'il y a eu il y a une harmonie qui se dégage de ça, tu sais.
Et justement, pour les dessinateurs, donc on reçoit un groupe, soit par intérêt, soit par proposition. Est-ce que on va s'imprégner? En fait, je prends pour acquis que vous connaissiez, soit vous connaissiez déjà un peu à l'avance les groupes, ou on replonge un peu dans les disques pour justement essayer de voir comment on peut rendre un peu ça visuellement. Je veux dire, comment on a abordé un peu ce projet-là, comme un projet classique ou vraiment en démarrant avec la musique?
Moi, je dirais que l'inspiration m'est venue beaucoup quand j'ai rencontré avec Nick et Félix le groupe Anonymous. C'est là que j'ai vraiment vu leur vibe des gars, c'est des grands enfants, là, des grands ados qui ont pas vieilli, là, puis qui ont une quarantaine d'années, puis que tu les écoutes parler, puis fait que. J'aimais beaucoup entendre leur histoire, puis c'était vraiment avec ces deux soirées-là, là, sur Zoom, là, que je me suis dit, OK, ben, mon style va vraiment bien faire avec le band.
Tu as choisi d'aller, François Simard, avec une palette quand même relativement restreinte, dans le fond, noir, gris, blanc, brun, comme couleur dominante. Qu'est-ce qui t'a amené un peu vers ce choix-là?
Ce qui m'a amené vers ce choix-là, moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Puis Nick voulait avoir de quoi d'avoir de quoi en couleur au niveau de la BD. Puis de un, moi, c'était un de mes premiers projets, fait que je voulais pas non plus me perdre dans la couleur. Fait que je suis allé avec de quoi d'un petit peu plus, je dirais, sécuritaire là, pour moi au niveau de la création. Dans quoi je me sentais à l'aise. Là, j'aime beaucoup travailler avec une palette de couleurs restreinte. Fait que j'ai fait plusieurs tests, puis c'est vraiment avec ces couleurs-là, puis surtout avec leur dernier album aussi d'Anonymous, que c'était ces couleurs-là qui étaient sur la pochette, des couleurs plus chaudes. Je trouvais que ça collait bien là, avec le groupe.
Oui, d'amener un peu, parce que dans le fond, dans certains cas, puis Anonymous, c'est un bon exemple, il y avait déjà un peu des images, des éléments visuels qui étaient rattachés à ça, puis tu l'amènes entre autres aussi avec ta dernière illustration, on va chercher la bestia justement dans ça. Donc, dans le fond, okay, comment je peux exploiter cet univers-là, comment je peux exploiter le vibe du groupe, puis après ça, amener mon style, mon interprétation là-dedans.
Exactement.
Et après ça, de se dire ben, de quelle manière ces gars-là peuvent devenir des personnages de BD, parce qu'au bout du compte, tu vas prendre le band, puis t'as un casting à faire, il faut qu'ils ressemblent, il faut qu'on reconnaisse, mais en même temps, oui, ça on n'est pas dans du photoréalisme non plus. Là.
Non, exactement, ça a été un autre beau défi de sortir de mes pantoufles. Quand moi, je suis plus du monde de l'illustration, donc quand on fait de l'illustration, ben, c'est une illustration, donc on ne répète pas souvent les mêmes personnages ou... Quand on a moins le goût de dessiner quelque chose, ben on dessine autre chose. Fait que là, fallait ben, que dans mes 10 pages, les personnages reviennent. Fait que ça a été un beau défi également, mais que je pense que j'ai relevé.
Puis en fait, des fois, on dessine autre chose, mais au sens littéral du terme aussi. Ça a été le cas de Cyrus. Dans le fond, et je me souhaite une joke plate, mais je l'apprécie
bon,
quand
c'est
même.
Bon, c'est
good. Et Cyrus, en fait, Félix disait justement que ton style est quelque chose qui fit, qui cadre un peu avec l'ambiance de ce groupe-là. Mm-hmm. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était sur un pari pour Dallaire, on disait ton style fit avec l'effervescence de cet artiste-là. Est-ce que tu trouvais aussi cette parenté-là avec la parole de Franck Cœur, avec le vibe d'autre chose?
Ben moi, déjà là, en partant, quand ils m'ont demandé, j'hésitais un peu parce que j'étais sur Dallaire, là. Mais mon cœur battait parce que la musique, c'est super important pour moi, c'est mon oxygène, là, première. Puis autre chose, ben ça m'évoque plein de souvenirs. Là. Quand j'avais 14-15 ans, j'écoutais ça aussi. Là, j'ai dit, OK, je vais voir comment je vais m'arranger. Puis j'avais juste 5 pages. Puis ça m'a sauvé un peu la face, je t'avouerai. Je me suis vraiment lancé là-dedans. J'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai beaucoup aimé surtout, moi, quand je plonge dans un sujet, je plonge pour aller chercher l'historique aussi, les images. Là, j'ai appris plein de choses, ces musiciens d'autres choses. Là, le plus drôle là-dedans, c'est que à la fin, on retrouve, tu sais, on parle de métal, mais à la fin, on retrouve plein de membres métal qui jouent avec Franqueur. Tu sais, dans les années 2000, Franqueur, il a récupéré des musiciens. C'est des musiciens de Groovy, de
Voivod.
Voivod, tu sais. Wow, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. Il est vraiment rassembleur, ce Lucien-là, ce Lulu, ou Luciano. J'ai écouté dernièrement le podcast, là. C'était vraiment bon, là. Ça durait juste deux shots, là. J'ai beaucoup apprécié.
Oui, puis ça nous renvoie à ce que Félix disait, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, faut amener autre chose, puis on oublie ou on pense pas nécessairement que ce groupe-là a une place importante, dans le fond, de l'évolution du métal, puis le revival qu'il y a eu avec, justement, la participation de Pan Musier montre bien qu'il y a eu une influence concrète, dans le fond, puis c'est ça, je regarde Félix du coin de l'œil, là.
Ben oui, puis tu sais, ce lien-là dans l'histoire, c'est une boucle dans l'histoire, tu sais, puis moi, ce que je répète souvent dans mes chroniques, vu que je suis toujours un peu en histoire, puis en histoire de la musique, c'est que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Il y a du monde qui accorde cette citation-là à Mark Twain, mais bon, c'est un peu comme toutes les citations sur Internet, on n'arrive pas à retrouver vraiment de qui ça vient vraiment, mais tu sais, c'est ça, cette boucle-là dans l'histoire, cette rime-là dans l'histoire, de voir des gars comme Peggy avant son décès de Voivod, puis Michel Louis-Langevin de Voivod, qui eux autres ont grandi en écoutant du autre chose, se retrouver dans le groupe autre chose plus tard. C'est une boucle incroyable, tu sais, c'est d'une richesse. C'est pour ça que je me disais que c'est nécessaire d'aller vers ça dans le livre. Puis, tu sais, si ça n'avait pas été de l'album Le Cauchemar américain de autre chose, je ne suis pas sûr que Voivod aurait été à tout le moins les Voivod qu'on a connus. Tu sais, puis ça, c'est beaucoup ressorti dans les entrevues que j'ai mené avec Away à l'époque où je préparais le livre sur l'évolution du métal québécois. Fait que c'est pour ça que pour moi, maintenant, c'est rendu imbriqués dans l'histoire de Voivode, et Voivode étant le groupe métal à peu près le plus important de l'histoire du Québec, ben, c'est donc nécessaire dans l'histoire du métal d'en parler. Fait que c'est pour ça que j'incitais un petit peu. Puis en même temps, ben, avec, comme je le disais tantôt, avec le style que Cyrus amène, ben là, ça nous. Écoute, on le vit là, à 100%. Le... Tu sais, c'est parce que tu sais, ce franqueur, justement, c'est non seulement le poète maudit, mais en même temps, il est tellement bon pour entretenir sa propre légende que ça en devient caricatural jusqu'à un certain point. Tu sais, il me fait rire quand il raconte, mais c'est un bon raconteur. Il y a des manières de dire les choses. Et là, Cyrus arrive, puis son style appuie ça complètement, tu sais. Ah, je trouve ça... Moi, j'ai adoré ce
mariage. T'as fait une page, t'as fait une séquence qui m'a fait vraiment triper, c'est quand que, Richard ramasse des canettes, tu sais, puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je ramasse des canettes, il y a plein d'argent à faire avec ça. Tabarnak, on n'a pas dit, là, mais c'est quoi cette belle-là? Ils ont fait des shows dans les 100 000 personnes, les 100 000 personnes, tu sais.
Oui, puis je disais à François tantôt, dans le fond, sur l'idée qu'il y a un casting, qu'il y a un personnage, puis avec Francard, ben, tu arrives avec quelqu'un qui est déjà un personnage, en fait, que tu peux juste amplifier, ouais, prendre, puis il y a quelque chose d'archétypal dans ce qu'il a réussi à bâtir comme image au fil des années, puis à conserver.
C'est ça le danger aussi. C'est ça le danger de prendre, puis de l'amener. T'sais. Moi, j'étais quand j'avais un peu inquiété par rapport à ça. Mais j'ai dit, je me laisse, je vois naturellement, puis on vient. Ben, dans cet album-là, entouré de tous ces dessinateurs et dessinatrices sur un sujet, puis ça, je trouvais ça bon parce que je suis sûr que cet album-là va marcher parce que moi, j'étais souvent dans des collectifs, puis ça a marché plus ou moins. Mais là, la musique va regrouper tout le monde, puis ça va sûrement faire effet, c'est sûr, certain, en aucun doute.
T'sais. Une chose qui est certaine, en tout cas, c'est que les gars d'Anonymous ont l'air d'être vraiment contents du résultat, parce qu'ils en parlent sur leur page Facebook régulièrement, hein, ils en parlent beaucoup, puis récemment, ils comparaient une photo d'archives d'eux autres, puis le dessin que François a fait, puis moi-même, j'ai fait comme, j'avais comme pas fait le lien, là, tu sais, entre les deux, puis eux autres même, ils étaient impressionnés de voir comment ça avait sorti, finalement, les jeunes ados qui débutaient Anonymous, puis le dessin qui s'était retrouvé dans la BD, tu sais, puis si on ne sait pas que c'est une photo, à l'origine, on s'en fout un peu, tu sais, mais une fois qu'on le sait, on fait comme genre, OK, l'aspect documentaire est intéressant, tu sais, il y a ça aussi, c'est que parfois, quand tu regardes, je sais pas, moi, tu sais, je regardais, comme tout le monde, Dahmer ces derniers temps, tu sais, puis là, je me disais, OK, et où là-dedans, la part, tu sais, est-ce que le personnage, tel personnage ressemble vraiment physiquement à ça? Est-ce que la scène ressemblait vraiment à ça, selon, tu sais, et à un moment donné, tu te rends compte que, ben oui, ils ont donné vraiment une attention très particulière à certains détails, c'est là que tu te dis, c'est la force de certains éléments qui vont être soit documentaires ou proches du documentaire. Ce que François a réussi à faire là, tu sais, justement, c'est un petit tour de force qui est comme très subtil, dans le fond. Tu sais.
Et justement, dans l'appropriation de la notion documentaire, je pense à Steph Dumais, par exemple, qui fait sur Gorguts. Ta grosse spécialisation avant, c'était plus la bande dessinée d'horreur. C'était un peu une première expérience dans le biographique, dans le documentaire, avec le travail que tu fais dans le collectif.
Oui, c'est ça. Moi aussi, je suis sorti de ma zone de confort parce que les BD que je fais, en tout cas, les gens qui ont vu ce que je fais d'habitude, c'est pas mal plus over the top, exagéré, ben du carnage. C'est pas bien dans le réalisme. Fait que là, il fallait que je tombe un petit peu plus terre à terre. Heureusement, il y avait des bonnes anecdotes que je pouvais illustrer qui étaient quand même le fun parce que j'aime dessiner l'action, les choses dynamiques. Fait que j'ai quand même eu la chance de faire ça. Moi aussi, j'ai eu le challenge de faire « Oh, il faut qu'il se ressemble quand même. » j'ai rushé et dessiné un violon alto. Ça, c'était plein de trucs de même que moi, dans mes BD, d'habitude, je dessine des choses, la plupart, je les invente ou c'est des choses pétées que j'ai pas trop à m'inquiéter d'un souci de réalisme. Fait que là, j'étudie des objets et dessiner des vannes, dessiner le pont, le George Washington Bridge. C'était des bons challenges, mais je suis bien content du résultat.
Oui, puis si je ne me trompe pas, c'est dans la tienne, justement, où la scène d'action plus intense, c'est une remorque qui décroche. Ouais. Ça change un peu d'autres types de scènes d'action, mais en même temps, justement, c'est quasiment plus difficile parce qu'il faut le rendre, puis c'est pas nécessairement... Il y a quand même une mécanique de la chose qu'il faut réussir à transposer en BD. Là.
Ben oui. Ben, ça a aidé aussi parce que quand je parlais avec Luc, J'ai eu la chance qu'ils viennent carrément chez nous passer un après-midi pour me raconter les choses. Fait que on regardait le scénario ensemble, puis ils disaient « Ah oui, mais attends, là, je vais te montrer comment ça s'est passé. » Ils mimaient les affaires. Il a même sketché, comme il y a une place, il y a une séquence dans BD où il y a son voisin, là, qui est son voisin louche avec un couteau. Et Luc me l'a sketché. fait que là, j'ai fait « Ah ben merci, c'est encore mieux. »
On ça, parle de celui qui appelait l'homme animal.
L'homme animal, c'est ça, et qui était tout poilu. Là. Puis la voisine pyromane. Fait que c'était bien le fun, ça.
Oui, ben en fait, j'imagine que ça doit être une grosse valeur ajoutée de pouvoir jaser directement avec sa source, pouvoir valider, pouvoir dire « OK, t'as l'affaire, prendre le fil, c'est... » Ouais. Ça devient un moment de rencontre, puis j'imagine en plus, ben, vous étiez intéressé à leur musique aussi. À un moment donné, on embarque dans un collectif sur le métal parce qu'on a un intérêt aussi, j'imagine, à quelque part là-dedans.
Ben oui, j'écoutais Gorguts au secondaire. Fait que c'est ça, Nick, quand il proposait les groupes, ben, j'ai fait ben, Gorguts, j'ai pas hésité. Honnêtement, là, ça je l'ai dit. Ça faisait un bout que j'avais pris parce que je vacille dans différents styles de musique là, dans mes goûts, c'est normal. Fait que ça fait du bien me replonger dans Gorguts, ça m'a ramené mes souvenirs puis tout. Fait que c'était le fun d'y revenir.
Oui, puis, à travers tout ça, mais dans le fond, on parlait de mise en scène, puis dans le fond, des fois on y va avec une approche qui est plus traditionnelle, d'autres fois on éclate un peu aussi parce que selon les moments, selon ce qui se prête. J'en lance trois, puis je veux juste parler un peu de décomposition. Je pense, allons-y avec Cyrus, la séquence où justement Lucien Francard, il y a, dans le fond, je pense qu'il est dans un édifice à l'intérieur du sous-marin jaune, donc d'un restaurant, puis dans le fond, tu vas tirer de la fenêtre, dans le fond, une case où là, Francard va être en train de chanter. Et je trouve que l'effet marche pour vraiment, c'est comme un haut-parleur, nous montrer le son, nous montrer l'action. Puis, je veux dire,
c'était un truc pour économiser des cases, parce qu'il m'a demandé une case à main, c'était bon, OK? Moi, j'étais, hey, my God, je vais faire ça. Il pourra peut-être sortir de la fenêtre, ouais. Pas évident, j'étais là, on va tester, merci de me dire que ça marche, puis j'étais pas sûr. C'est pour ça aussi, donner l'effet que c'est moi le freak de Montréal, regardez-moi là, puis là c'est un gros plan de sa face. Mais tout le monde dehors, il y en a juste un qui est surpris, tu sais. Le monde, on sent qu'il se dirige vers là, là. T'sais. Mais moi, j'ai cherché le sous-marin jaune, j'ai jamais trouvé. J'aurais aimé ça voir la bâtisse, tout ça, mais... on va dire que c'est peut-être juste un instinct, mais j'ai essayé de jouer un peu avec ça. J'ai beaucoup aimé dessiner toutes les punks, tout ça, les petits personnages là, qui m'ont bien trippé. Il y a même ça que la fille a donné une volée au skin. Là,
oui, puis avec quatre décors, en fait, tes planches, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment quatre décors radicalement différents. Dans le fond, la plage, la chambre à coucher, un spectacle, la ville. Donc, tu as eu une bonne variété, dans le fond, côté dessin à explorer, à exploiter.
Moi, ouais, j'ai dessiné mon premier nu dans cette BD-là. Je l'avoue, je mets ça sur la table. Ça, c'est
je m'en gâche. Du côté d'Anonymous, en fait, l'impression que j'en ai, c'est qu'on est vraiment dans... ça pullule l'anecdote, cette histoire-là. Des fois, on passe d'un élément à l'autre. Puis de temps en temps, dans le fond, il y a des moments où là, on a une plus grosse illustration, on prend un moment de respiration, on sent qu'eux sont en création, puis après ça, oups, on en replonge. C'est qu'il y a beaucoup de jeux sur la grandeur des cases, sur l'organisation. On dirait que comment ça s'est passé un peu l'architecture, dans le fond, de tes planches, au bout du compte?
Moi, je suis graphiste de formation, fait qu'on dirait que quand je fais de la BD, j'aime ça que ça soit quand même bien structuré. J'envie des BDistes qui sont capables de s'éclater, mais moi, il faut vraiment que je pars d'une structure très très carrée, puis là, je veux pas dépasser, puis là, je veux pas que mes bulles touchent trop sur mes lignes de corps. Je veux que ce soit à l'intérieur, que ça respire. Puis je voulais en même temps qu'il y ait un côté spectacle à la chose, parce que tu sais, ces gars-là, c'est ça qu'ils font, là. Ils donnent des shows puis ils font du spectacle. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'il y ait vraiment des bouts dans les pages que quand on vire ou quand on arrive à la dernière, justement, là, que ce soit grandiose, puis qu'on sente là, l'élément spectacle. Parce que vu qu'on raconte des anecdotes, ben des fois, on voyait moins un peu des scènes de show, mais fait, quand j'avais l'occasion là, de montrer le show, ben, je me gâtais. Là.
Oui, puis je trouvais intéressant que tu l'amenais souvent des fois en début de page. Je veux dire, souvent, on va avoir le réflexe de dire, OK, la grosse ligne, la case un peu plus large, on la retrouve en bas. Mais non, toi, c'est en haut. Ça, tu nous happes un peu là-dessus, puis après ça, whoops, on tombe dans le plus précis.
Exactement. J'essayais justement de varier un peu les patterns, pas justement de toujours avoir la fameuse grosse image en bas de page ou de toujours avoir à la page de droite cette fameuse grosse image-là. Parce que j'essayais de créer quand même un certain dynamisme là, dans la construction des pages.
Puis il y a la séquence aussi où il se retrouve, je pense que c'est à Saint quelque chose, en fait, en plein milieu du bois. Et là, j'aimais la duplication, puis c'est là aussi que je me suis dit, OK, là, le brun, ça marche encore plus puissance 1000. Là, je veux dire, tes couleurs sont forestières, tes couleurs boisées, après ça, le gros lettrage par-dessus pour nous montrer, nous appeler un peu la musique, mais la duplication entre un paysage qui, normalement, devrait être plein de quiétude, puis qui est comme emporté, envahi par le son, ça donne, je veux dire, ça met en relief, si on peut dire, l'élément, puis c'est vraiment une des cases qui fonctionne super bien. Là.
Je me suis bien amusé dans celle-là, puis là, justement, je me suis dit, ben là, arrête de rester dans ton carcan, puis là, il y a justement un oiseau là, qui dépasse, puis avec il y a plus un peu de profondeur, là, justement, dans mes layers là, de dessin, là. Fait que je me suis dit, bon, ben, faut s'amuser aussi.
Et du côté de Steph, en fait, entre autres, je pense, un des éléments, puis j'ai l'impression que c'est un moment charnière aussi dans BD, fait qu'il ne fallait pas que tu rates ton effet, mais c'est le bout où justement il y a Suffocation qui arrive dans l'enregistrement studio, qui fait une performance, puis toute la montée, on part avec le groupe qui arrive, on est vraiment en demi-page, après ça, puis on sépare un peu le dialogue, la performance qui prend toute la place, mais en arrière, tu insères le regard de Luc, et on le voit regarder, puis je trouve que la façon dont tu as choisi de le placer, on comprend clairement, sans même que tu aurais eu besoin de l'écrire dans le texte, mais on comprend l'effet transformateur que cette séquence-là a eu pour lui. Est-ce que tu as eu l'impression de réussir à mettre le doigt sur quelque chose qui allait réussir à évoquer ça? Parce qu'il ne fallait pas que tu le manques non plus.
Ben déjà, juste le faire les yeux grands écarquillés, ça aide beaucoup. C'est drôle que tu apportes ça, parce que dessiner ça, c'était plus organique, c'était plus facile que, disons, la scène de la remorque qui décroche. J'ai rushé plus là dans les trucs plus techniques, mais les trucs d'émotion comme ça, avec le ban énergique puis tout en avant, ça venait tout seul, puis j'avais des parallèles déjà avec des BD que je fais. Il y a des scènes comme ça qui se passent des fois, fait que c'était facile à transposer, en fait.
Oui, puis avec toute l'action qui est comme vers l'avant, parce que je l'ai à côté, puis t'as le ban qui est penché vers l'avant, t'as les yeux, fait qu'on dirait que tout interpelle le lecteur. C'est des pages comme ça où je trouve qu'il y a une dynamique un peu d'immersion, où justement, parce que pour moi, c'est le défi de parler de musique, c'est de réussir à rendre visuellement le son. C'est zéro évident, là, sincèrement. Puis il y a des séquences comme ça où tu dis, OK, là, hey, ils ont réussi, ça marche.
Oui. Ben, il y a aussi les photos de référence. Il y a des scènes, je voulais faire comme placer les doigts correctement, ces guitares, des trucs comme ça. Mais c'est veux pas, ces photos de référence-là, ça venait avec les expressions faciales aussi des musiciens. Fait que ça a beaucoup aidé.
Oui, pour rendre un peu l'énergie, parce que l'énergie du show et le reste. Et d'autant que ta BD, elle démarre sur le bord de la route, au bout du compte, c'est comme le métal arrive en cours de route dans ta séquence. Là.
Ouais. Ouais, donc, c'était le fun parce que ça fait. J'aimais l'effet, ça fait calme au début. C'est pas trop. Tu rentres pas tout de suite dans. Parce que la musique, c'est heavy, là, Gorguts, là. Fait que ça commence, tu sais, quasiment, t'entends quasiment les oiseaux au début, là.
Oui, en fait, j'aimais, tu dis que calme au début, puis après ça, oups, ça monte. Ouais. À un moment donné, la fille Pierre-Anne, plein d'affaires, plein d'adresses, puis après ça, oups, à la fin, on en revient un peu, on ramène un peu la route, on retombe un peu on close un peu dans le calme aussi, là, finalement.
Ben oui, ben tranquille dans son atelier, à travailler le bois, ça, c'était bien le fun, ouais.
Oui, un peu comme si Gorguts avait été une parenthèse influente, mais une parenthèse, en fait, dans une autre quête, au bout du compte.
Oui.
Fait que ça revient à ce que tu disais un peu tantôt aussi, de capter le personnage, de voir un peu c'est quoi l'essence de ce gars-là. Puis...
Ben c'est ça. Moi, je connaissais pas du tout, Luc, puis j'ai pas écouté une tonne d'entrevues non plus. Là, je connaissais pas à fond, là. Fait que moi, tout ce que je connaissais, c'était sa production musicale, c'était Gorgots. Fait que le rencontrer, parler avec lui, j'ai fait comme OK. C'est vraiment quelqu'un de pas mal plus philosophique que je pensais. Je veux dire, la musique le laissait savoir, mais là, parler avec lui, puis toutes ses autres inspirations, tous ses autres projets, tu sais, il fait de la musique pour le biodôme, tu sais. C'est un de ses projets. C'est plein d'affaires que j'apprends. Je dis, ah, OK. C'était vraiment fascinant. Là, j'ai appris beaucoup là-dessus. Au point où ce que je trouvais, c'était, ah, c'est juste 10 pages. Je pense que j'aurais fait une BD au complet. Là. J'aurais fait une BD de 30 pages. Là.
Oui, hey, puis en fait, j'ai l'impression qu'on fait la boucle où on se tourne vers Félix, puis on dit c'est comme on revient au choix des anecdotes, au choix des éléments, à qu'est-ce que tu mets là-dedans? Parce que chaque groupe aurait pu avoir sa BD, puis il y aurait eu du stock, là, sincèrement.
Ben ouais.
Oui, puis tu sais, un gars comme Luc de Gorgots, là, c'est un conteur absolument fascinant, charismatique. Tu sais, c'est vraiment, quand il se met à te raconter ses anecdotes, là, t'es là avec lui. Fait que dans un sens, c'est vraiment bon justement pour l'illustrateur parce que aussi justement, il va mettre des détails puis il va t'amener avec lui là-dedans. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gars qui est très, très, très contrasté dans ses intérêts puis dans ce qu'il fait puis dans son talent, Je pense que ce qui rassemble tout ce qu'il fait, c'est toujours la minutie puis la rigueur. Et c'est un artiste qui est vraiment complet. Fait que, c'est autant un génie de la musique classique que c'est un génie de la musique métal extrêmement brutale et extrêmement... tout le contraire d'être mélodique. Là, quand t'écoutes l'album,
mais les deux sont pas antinomiques. En fait, il faut que tu maîtrises la mélodie pour maîtriser sa déconstruction.
Exactement. Fait que, ça, y a tout ça apparaît dans les quelques pages qu'on a pu faire à propos de Gorgots, mais effectivement, dans les entrevues qu'on a faites avec Nick puis moi, après ça, on se regardait, puis on était comme, man, ça a été le premier en plus avec qui on a discuté, je me souviens bien, hein, Nick, je pense que c'est ça, puis moi, j'étais comme, OK, ça va être tellement tough faire ça. Sur le coup, je me disais, dans quoi qu'on vient de s'embarquer? Finalement, ça a été un petit peu plus facile avec les autres de choisir, c'est pas tout le monde qui avait la même verve que Luc là, pour raconter les anecdotes. Mais c'est ça, c'est d'une richesse incroyable. Puis oui, on pourrait facilement faire une BD au complet juste sur Gorgots.
Et en terminant, la question curiosité, dans le fond, quand on aborde une BD comme ça, que ce soit au dessin ou que ce soit au scénario, est-ce qu'on se dit qu'on l'a fait d'abord pour les fans de métal ou qu'on l'a fait d'abord pour intéresser ceux qui ne s'intéressent pas au métal et les amener à écouter différemment le genre? Ou un peu les deux en même temps, puis on essaie de trouver la ligne, puis on y va à l'instinct.
La manière que Félix a proposé l'album, c'est qu'il y a une zone de texte en haut qui parle de qu'est-ce qu'ils font dans leur carrière en ce moment, où c'est qu'ils sont rendus. Et ensuite, on parle d'une anecdote que les gens ne connaissent pas, puis tout ça. Donc, on a fait l'album aussi pour les fans de métal, mais aussi pour ceux-là qui ne connaissent pas ça, qui n'aiment pas ça, qui vont rire des anecdotes drôles, ils vont embarquer, ils vont suivre. C'est quand même des humains qui suivent. C'est le côté humain qu'on mettait de l'avant. Donc, on l'a fait pour tout le monde. C'est un album qui va plaire à tous les gens, fans ou pas fans de heavy metal.
Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. C'est comme, moi, c'est ça, en journalisme, que j'ai appris finalement, c'est que quand tu. À un moment donné, tu le sais, là, OK, cette histoire-là, là, ça va comme. C'est porteur, ça va nous amener quelque part. Puis que ce soit ce que cette histoire-là nous parle, que ce soit le pape qui l'a vécu, que ce soit Luc de Gorgots, qui sont de deux écoles complètement différentes de pensée, si l'histoire est bonne, tout le monde va pouvoir s'y intéresser parce qu'après ça, c'est de réussir à amener l'auditeur ou le lecteur au bout de l'histoire, tu sais, puis de l'intéresser. Fait que moi, c'est mon leitmotiv d'à peu près tout ce que je fais, là, tu sais, vraiment. Je m'intéresse énormément à la mise en récit. Fait que pour moi, tout ça avait énormément de sens, justement, en se disant, on va réussir à parler aux fans de métal qui vont probablement apprendre des affaires là-dedans parce qu'il y a des détails et des anecdotes qui n'ont peut-être pas déjà été racontées. Mais le commun du mortel aussi va se retrouver parce qu'il y a des affaires qui sont juste tellement hallucinantes de ce qu'ils ont pu vivre sur la route que tout le monde va juste sourciller en regardant ça et en faisant comme, mon Dieu, OK, c'est un don ben intense.
Et Nick, en terminant, dans le fond, tome 1, c'est-à-dire un tome 2 en 2024?
Oui, c'est les plans. Si Félix veut embarquer pour le tome 2, on va le faire. Ce qu'on avait fait pour le tome 1, c'est qu'on avait pris des dessinateurs et on a écrit l'histoire. Ce qu'on va faire pour le tome 2, parce que Félix, c'était un gars bien occupé et tout ça, fait que des fois, les dessinateurs attendaient le scénario. Je dis, ah, ben attends un petit peu, Félix, il a écrit un autre livre puis tout ça. Ce qu'on va faire, on va écrire le scénario complet. Après, on va chercher les dessinateurs. Fait que ça va sauver du stress pour tout le monde. Puis, ça va être des nouveaux groupes. Le seul groupe qui va revenir, c'est Voivode, parce qu'on va faire la seconde décennie du groupe, qui ça va être très intéressante.
Alors, à suivre, mais d'ici là, évidemment, le tome 1, il est disponible, donc l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec, donc scénarisé par Félix Desfossé. Et donc, parmi les participants, il y a Scully Pop, Steph Dumais, François Simard, Guillaume Manuel et Christian Kennel, ainsi que Cyrus. Était avec nous Félix Desfossé, Nick Michaud, éditeur, François Simard, Cyrus et Steph Dumais, dessinateur. Merci beaucoup à vous 5.
Merci
beaucoup, Raymond.
Salut.
Alors voilà qui termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro et on se dit à la semaine prochaine.